17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à la France, bonjour aux auditeurs de Beurre FM. Quel plaisir de vous retrouver, vous le savez. Ah, entre ce temps qui nous secoue un peu, la pluie, le soleil. Bon, bref, vivement, le grand soleil avec des températures beaucoup plus clémentes. 17h, 19h. Eh bien, vous savez, c'est le grand déballage en direct et en live qui vous attend. Alors, au sommaire, eh bien, au programme, au menu, ce que je vous propose ce soir, eh bien, plusieurs éléments, plusieurs sujets. D'abord, on va s'intéresser au Kurdistan syrien, les rapatriements et le coup de gueule surtout du député européen de Mounir Satouri. Ensuite, tout à l'heure, Omar Slaouti, eh bien, lui dit que le gouvernement, il veut récupérer un peu quelques émotions en pointant du doigt une partie de la population. Je veux faire référence, évidemment, au quartier populaire et à l'islamophobie. Il va en parler tout à l'heure. Et lui aussi, paraît-il que c'est aussi un coup de gueule. C'est pas l'émission coup de gueule, mais bon, parfois, c'est aussi comme ça. Et puis, les débatteurs viendront confronter leur point de vue. 4 débatteurs, 15 influenceurs viendront débattre, évidemment, et confronter leur point de vue autour des sujets suivants. Les rixes, les violences, ces poisons qui gangrènent, eh bien, la France, l'Algérie, et puis Macron, Emmanuel Macron et les archives. Ensuite, après, on retiendra évidemment Marine Le Pen, qui dit clairement avec cette déclaration, je gagnerai la présidentielle en 2022. Tiens, bon, eh bien, on va s'intéresser à Marine Le Pen, parce que c'est un phénomène qui est grandissant. Et puis, on parlera du Covid avec, vous savez, l'exécutif qui est de plus en plus embarrassé par cette montée préoccupante du Covid, notamment en Île-de-France. Que se passe-t-il? 17h30, Pascal Boniface et sa signature autour de la géopolitique. 18h, Maître Philippe-Henri Honegger et puis son point de vue juridique autour de l'actualité. Et enfin, le docteur Siocine qui viendra nous faire le débrief à 18h45 sur un sujet qui retiendra son attention. Et puis vous aussi. Vous aussi, partout en France. 01 53 48 3000. Ça, il faut l'enregistrer, mais je crois que vous le connaissez par cœur, ce numéro. Je vous attendrai tout à l'heure au standard. Yanis, plus précisément, viendra récupérer vos appels pour intervenir sur ces 4 sujets d'actualité. Voilà. Notamment pour donner, nous livrer votre témoignage et votre point de vue. Eh bien, vous le savez, c'est parti. Mais surtout, plus que jamais, en toute liberté d'expression. Voilà
Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Le député européen Mounir Satouri, qu'on connaît, qui est devenu à plusieurs reprises ici chez nous, notamment sur Beurre FM. Bonjour, monsieur le député européen.
Bonjour Adil et bonjour à toutes vos auditrices et auditeurs.
L'eurodéputé donc français, Mounir Satouri, vous rentrez du Kurdistan irakien. Vous êtes, paraît-il, en colère. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le député, monsieur l'eurodéputé, pardon?
Je suis en colère parce que on a souhaité, avec 3 autres collègues, la députée européenne Sylvie Guillaume, les députés français Hubert, Julien Laferrière et Frédéric Dumas, nous rendre sur place, à la fois au Kurdistan syrien et irakien, rencontrer les autorités locales, visiter des camps yézidis, visiter un camp déplacé irakien de l'intérieur, parler à la société civile, aux avocats, aux élus.
Oui.
Et nous avons souhaité rentrer au Rojava, aller sur les camps Rojava 1 et Rojava 2 pour rencontrer, discuter.
Oui.
Avec nos compatriotes retenus sur place là-bas depuis 3 ans, voir les enfants dans quelles conditions ils vivent, pour pouvoir rendre compte, témoigner, raconter à notre tour ce qu'on a vu, mais on n'a pas pu aller au bout de cette mission.
Oui.
On a tout fait, sauf...
Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout de cette mission? Que s'est-il passé, Mounir Satouri, monsieur le député européen?
Eh bien, après 24 heures de discussion avec les autorités du Rojava, l'autorité autonome, autoproclamée, on a été autorisé à traverser la frontière, à rentrer au Rojava. On a été accueilli par un certain monsieur Abdelkader Omar, le représentant des affaires étrangères, autorité autonome, autoproclamée. On avait des rendez-vous l'après-midi même avec la coprésidente du Conseil national kurde syrien, avec le responsable des actions humanitaires.
Oui.
Et on a été bloqué à la frontière, assigné à résidence, parce que le poids de la France stratégique, géopolitique est tellement important aux yeux des autorités kurdes qu'ils ne pouvaient pas nous laisser aller plus loin.
Ah.
Alors le premier argument est un argument sécuritaire. Ce monsieur était pour notre propre sécurité, mais à force de débattre et d'argumenter, quelques semaines avant, des collègues européens de d'autres pays, la Belgique, quelques semaines avant, des représentants de Catalogne ont pu rentrer, y compris aller sur le camp d'Alol, un camp de 60 000 personnes où les problèmes sécuritaires sont 10 fois plus importants que dans le camp de Roche 1 et Roche 2. Eux, ils ont pu rentrer, et pas nous. En fait, on était empêchés, par volonté du prince Macron, de ne pas faire notre travail de parlementaire, d'investigation sur le terrain.
Mais pourquoi vous dites le fait du prince, c'est-à-dire Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui vous fait avancer que c'est Emmanuel Macron qui vous a empêché, évidemment, d'aller jusqu'au bout de cette mission, monsieur le député européen?
Au bout d'une heure de discussion, vous entendez, vous comprenez. Et on a tous les quatre. On est des députés dans deux assemblées parlementaires différentes, de différentes familles politiques différentes. Et nous sommes tous les quatre arrivés à la même conclusion qu'il y avait une volonté politique de la France, donc du président de la République, de ne pas nous laisser voir, témoigner, ramener des images. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une volonté politique pour que ces enfants restent invisibles.
Restent parce que, je vais essayer de replanter le décor. Mounir Satouri, vous représentez les Verts, on est d'accord? Vous êtes parti lors d'une mission.
Je suis député européen, je représente les Françaises et les Français.
Les Français et les Françaises, bien évidemment, monsieur le député.
Europe Écologie Les Verts.
Europe Écologie Les Verts. Monsieur le député, vous rentrez donc ce séjour, vous m'arrêtez si évidemment j'induis les choses en erreur, du 26 février au 3 mars, vous étiez donc en déplacement d'une mission dans le Kurdistan irakien, avec d'ailleurs trois autres de vos collègues, Sylvie Guillaume, Frédéric Dumas, Hubert Julien Laferrière.
Exactement.
Alors, d'abord, qu'est-ce que vous...
Avec trois avocats mandatés par Avocats sans frontières France et le bâtonnier de Paris.
Alors, vous êtes, évidemment, cette mission était de rapatrier les enfants, d'accord, qui sont restés un peu invisibles,
non, nous n'avons pas autorité à rapatrier les enfants. Était d'aller voir les camps, de constater dans quelles conditions vivent et notre combat politique.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Vous avez constaté quoi sur place? Parce que l'Irak, le Kurdistan, c'est tout de suite, on pense au pétrole, on pense aux conditions sanitaires, on pense à la malnutrition, on pense à, évidemment au manque d'éducation. Vous rentrez évidemment avec quoi comme souvenir dans votre valise?
Dans vos bagages. On n'a pas pu voir les camps au Rojava. Les camps en Syrie, on n'a pas été autorisé à rentrer. Donc, je n'ai pas d'image. Même si j'ai des récits, qu'on a discuté avec plein de gens sur place. On a appelé des personnes avec qui on a fait des réunions de webinars, etc. Moi, dans les deux camps qu'on a visités, à la fois des déplacés irakiens de l'intérieur et le camp où il y a des réfugiés yézidis, je retiens l'image de plusieurs femmes de différents âges d'ailleurs, une personne de plus de 60 ans comme une jeune fille de 17-18 ans qui ont subi des agressions sexuelles, une maltraitance terrible par les combattants de Daesh et qui n'ont pas encore réussi à faire leur travail de reconstruction.
Et ils sont
psychologiques, ils ne peuvent pas retourner chez elles. Elles ne se sentent bien dans les circonstances que dans le camp. Et on a beaucoup parlé de la communauté yézidi, de cette minorité religieuse. Et j'ai constaté sur place que la communauté internationale et l'Europe aussi, on n'est pas à la hauteur et qu'on devrait beaucoup plus les aider.
Vous dites, monsieur l'eurodéputé, que les deux tiers des enfants ont moins de 6 ans, que dans ces camps, justement, il y a la misère qui est très significatif, en tout cas qui est saisissante, la faim, la soif. Et quand Daesh nous attaque, c'est pour tuer et pour nous attaquer nos valeurs et nos démocraties. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour retrouver évidemment une vie meilleure pour ces enfants?
Indiscutablement rapatrier ces 200 enfants et ces quelques 80 mères.
Alors est-ce que la France est prête, monsieur l'eurodéputé?
Sans aucune condition. En tout cas, les autorités françaises, le président de la République et le gouvernement n'y sont pas. Ils sont pas prêts.
Pourquoi votre message ne parvient pas à être entendu à l'Élysée, auprès du président de la République? Pourquoi?
Quelques années, gouverner, c'était choisir. Aujourd'hui, gouverner, c'est sonder. Parce qu'il y a un an, le président de la République a commandé un sondage qui a dit qu'une majorité de Français était contre les rapatriements.
Oui.
Et aujourd'hui, ce sondage fait foi. vous vous rendez compte où on en est dans la vie politique française. On est en train de faire de ces femmes et de ces enfants les bannis de la République. Vous savez, le bannissement, cette condamnation qui remonte au Moyen-Âge, on est en train de leur faire subir une déchéance de la nationalité de fait. Je trouve que c'est scandaleux. Et ce qui me révolte le plus, c'est qu'en fait, quand Daesh nous attaque, et je l'ai dit et je le répète, c'est pour commettre des morts et on a payé un prix lourd en la matière. Mais c'est aussi pour attaquer l'état de droit.
Ouais.
C'est attaquer nos valeurs. Et ne pas ramener ses femmes et ses enfants, c'est contrecéder un petit bout dans notre état de droit.
Ouais.
Et ce qui me révolte, c'est que les comptes dans lesquels on abandonne ses femmes et ses enfants sont aujourd'hui un élément de propagande de Daesh pour embrigader là-bas comme ici. On ne peut pas combattre Daesh avec en dehors des règles de droit et de l'État.
Mais alors,
de la France, l'honneur de la France, cette patrie des droits de l'homme, est de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'abord, de rapatrier les enfants et les mères. Toutes les femmes là-bas sont judiciarisées. Ça veut dire qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux que des juges antiterroristes français ont ouvert contre elles. Si elles ont été complices de crimes, si elles en ont commis, qu'elles soient jugées et qu'elles passent leur peine, je n'ai aucune difficulté avec ça.
Vous racontez un peu partout dans la presse écrite, chez nos confrères, notamment une consoeur, que la situation... Une journaliste d'ailleurs, raconte que la situation qu'elle dénonce d'ailleurs elle-même, elle dit qu'évidemment, c'est le calvaire de ces familles. Ce que vous dites d'ailleurs, est-ce que c'est en quelque sorte votre cri d'alarme? C'est un cri d'alarme que vous lancez là, sur notre antenne, monsieur l'eurodéputé?
Vous savez, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, 2/3 des enfants ont moins de 6 ans. Ils sont arrivés dans ce camp il y a 3 ans. Les camps sont au milieu de champs pétroliers. L'odeur du pétrole est terrible. Très froid l'hiver, très chaud l'été. Conditions sanitaires inexistantes. Accès aux soins et à la santé très compliqué, très difficile. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition. Beaucoup sont malades. Ce n'est pas à la hauteur de notre démocratie. C'est pas bien.
Oui.
Il faut ramener ces femmes et ces enfants. Et vous savez, je le dis et vous entendez... mon engagement sincère en la matière. Mais les juges antiterroristes le disent. Le coordonnateur des juges antiterroristes dit qu'il faut ramener les femmes et les enfants, y compris pour notre
propre sécurité. Alors, comment protéger ces enfants, monsieur l'eurodéputé? Comment justement faire en sorte que ce rapatriement se fasse, évidemment, au plus vite? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'en rentrant de cette mission, de ce déplacement, est-ce que vous êtes à la fois découragé ou est-ce que vous êtes reboosté pour faire en sorte que ce rapatriement se fasse, monsieur l'eurodéputé?
On est révolté de la situation, mais on est complètement engagé. On ne lâchera rien, que ce soit moi et mes collègues qui ont fait partie de cette délégation, ou bien d'autres. Hier, le Parlement européen a voté une résolution sur la Syrie. C'était les 10 ans de la guerre en Syrie, dans lequel, grâce à un amendement déposé par les écologistes, on a réintroduit un paragraphe sur l'obligation des États membres de rapatrier les femmes et les enfants et de travailler à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce texte, aujourd'hui, il existe, il a été voté par une large majorité.
Ouais.
La Belgique rapatrie. L'Allemagne réfléchit à le faire. La Finlande y réfléchit. Je pense que très bientôt, ça deviendra intenable, cette position.
Est-ce que je peux vous dire que la situation est explosive, risque d'être explosive, ou elle l'est?
Ah, la situation là-bas, elle est explosive. Du côté de Raqqa, Daesh se réorganise, reprend des forces. Les autorités kurdes sont très inquiètes, et pas que. Et donc, ils nous ont même dit qu'ils étaient inquiets pour leur capacité à maintenir fermer les prisons où il y a les combattants.
Oui.
Et donc, il faut pas se désengager de la région et les forces de la coalition pour en partir. Et moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Et il faut pas se réjouir tout de suite. Daesh n'a pas été complètement battu. Il existe encore. Et puis, il faut rapatrier nos compatriotes. Ce n'est pas possible de continuer à les laisser. Moi, je lance évidemment cet appel au président de la République. Je lui demande de nous recevoir. On lui a écrit jeudi dernier pour qu'il nous reçoive, pour qu'on l'écoute, pour qu'on essaye de le convaincre. Et puis je compte sur vous, Adil, comme sur vos confrères, de faire en sorte que ce sujet soit un sujet de débat public. Moi, je n'ai pas envie de me résigner parce qu'il y a un sondage, ou parce que si je m'exprime sur le sujet, la fachosphère sur les réseaux sociaux va m'attaquer. Nous sommes un grand pays, nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous sommes un état de droit. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer et de lâcher quoi que ce soit sur notre état de droit.
Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment que la France compte dans l'échiquier géopolitique sur place, là-bas, au Kurdistan irakien?
La France compte beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient gênés aux entournures. Ils nous ont empêché nous d'entrer quand ils laissent entrer des Belges, des Catalans ou des Allemands. Donc oui, la France peut jouer sur place un rôle, mais je pense que ça grandirait la France de faire un geste fort envers ses femmes et ses enfants.
Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs ?
J'ai envie de leur dire de s'exprimer. Les extrêmes trouvent toujours plus d'énergie pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Moi, j'invite tous les humanistes, tous les démocrates, tous les citoyens et citoyennes qui souhaitent qu'on reste un grand pays, la patrie des droits de l'homme, d'exprimer haut et fort leur désir de justice pour ses enfants et pour ses femmes. Ouais. Et encore une fois, faisons confiance aux juges antiterroristes. Tout ce qui peut être fait pour relayer un message de courage au président de la République et au gouvernement serait une bonne chose. Et j'ai surtout pas envie qu'on les laisse encore 3 ou 4 mois et que demain, ils deviennent les otages de la campagne présidentielle.
Oui.
Et que parce qu'il y a des calculs électoraux, cette situation n'avance pas. Je pense qu'on a
Monir. 2 mois
pour agir, et il faut le faire maintenant, et il faut que nos concitoyens expriment leur point de vue.
Monir Satori, merci infiniment. Vous êtes député européen pour Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous dans le grand déballage sur BFM. Et j'espère que le message est passé. Vous n'hésiterez pas, surtout on compte sur vous pour nous donner suite concernant évidemment votre déplacement et de cette mission. Nous, on suivra cela évidemment avec beaucoup d'attention, monsieur le député européen.
Merci Adil de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Et évidemment, je vous tiendrai au courant, je m'y engage.
Merci, peut-être que d'ailleurs il faudra qu'on vienne avec vous sur place, évidemment, pour constater de nous-mêmes et puis consacrer peut-être un reportage. Pourquoi pas? Merci, monsieur le député européen Monir Satori. Merci, 17h17. On va recevoir, tout de suite, Omar Slaouti, puisqu'il organise, il a réussi à fédérer 70 organisations autour de la question islamophobie. Tiens, qu'est-ce qu'il compte bien faire, Omar Slaouti? D'ailleurs, Omar Slaouti, qui est un élu de l'opposition sur la ville d'Argenteuil, c'est juste après la pub. À tout de suite. Voilà.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
17h24 précisément, 25 même d'ailleurs, on peut le dire, dans le grand déballage en direct et en live, 01 53 48 3000. Vous nous appellerez tout à l'heure pour réagir évidemment au sujet d'actualité. Les quatre débatteurs qu'on va retrouver à partir de 17h30, juste après la chronique, l'édito de Pascal Boniface, comme chaque vendredi. Et puis tout à l'heure, vous savez, j'ouvrirai l'antenne. Alors Omar Slaouti est avec nous, c'est notre invité.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
L'interview 2 de la semaine avec Omar Slaouti. Bonjour Omar Slaouti.
Bonjour Adil Farkan, comment vous allez ?
Moi je vais très bien. Alors vous êtes dans la politique, vous êtes dans l'associatif, vous êtes un véritable militant, une personnalité engagée sur les questions à la fois sociétales, les questions aussi qui nous concernent tous. Mais là il y a un sujet qui vous préoccupe, qui vous amène à en parler sur notre antenne dans le grand déballage. C'est celui qui réunit évidemment à la loi contre le séparatisme, mais surtout cette histoire autour de la question de l'islamophobie. Alors, vous avez fédéré plus de 70 organisations autour, évidemment, de cette question. Comment est née un peu cette idée, Omar Slaouti ?
Mais écoutez, cette idée, elle est née parce que finalement, on nous l'a mise dans la tête. C'est qu'en fait, on a un gouvernement qui a décidé, alors qu'il y a une crise sociale, une crise économique, une crise sanitaire, une crise politique, enfin plein de crises majeures,
Oui. Qui
a décidé de mettre dans son agenda politique la loi qu'on appelle la loi séparatiste, qui a été rebaptisée autrement, la fameuse loi qui assoit, soi-disant, les principes républicains.
Oui.
Et finalement, il faut le dire clairement, vise aujourd'hui des catégories de la population parce que musulmans, soit de foi, soit de culture. Eh bien, face à cela, des organisations de partout en France se sont réunies dans un front pour décortiquer cette loi séparatisme et dire en quoi elle était particulièrement dangereuse, mais pour tout le monde. C'est à la fois une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de culte, à la liberté d'association.
Mais tout cela résulte, dites-moi, tout cela résulte autour d'un ras-le-bol, autour de quoi précisément? Pourquoi vous agissez maintenant, quelques mois après d'ailleurs, Omar Slaouti?
Oui, c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol qui monte, même si on croit qu'on a à chaque fois atteint le fond, ça continue. Ceux et celles qui, en haut, qui nous gouvernent, disent qu'il faut absolument défendre la République et qui font une loi telle que celle-là, il faut comprendre oui. que cette loi s'attaque à la loi de 1881, pilier de la liberté de la presse en France. Elle s'attaque à la loi de 1882 sur l'enseignement. Elle s'attaque à la loi de 1901, pilier aussi de cette République sur la liberté, la loi d'association.
Oui.
Et enfin, elle s'attaque à la loi de 1905 sur la laïcité. Et quand elle s'attaque à ces piliers de la République, elle montre du doigt.
Et pourtant, c'est un professeur qui dit cela, hein, Omar Slaouti.
Pardon ?
C'est un professeur qui dit ça.
Oui, c'est un
enseignant. Vous êtes professeur, vous.
Surtout, tout à fait, monsieur Adissakal. Mais c'est un enseignant surtout qui, comme beaucoup, est attaché à la fois aux libertés des uns et des autres,
ouais.
à l'égalité de traitement, à la lutte contre toutes ces discriminations. Alors nous, on a envie de dire juste une chose. Il y a un message qu'il faut dire.
Oui.
Il est simple. Laissez l'islam et les musulmans et les musulmanes tranquilles, s'il vous plaît.
Mais ça veut dire quoi? Alors attendez, non. Moi j'ai tendance à entendre, pardonnez-moi de vous poser la question de façon provocatrice, laissez les musulmans, laissez l'islam tranquille. Mais alors à quel moment on en parle? À quel moment les musulmans doivent s'organiser? À quel moment, si vous voulez, les musulmans, les Français de confession musulmane doivent s'emparer, si tu veux, de cette question, Omar Slaouti? Vous qui êtes à la fois professeur des écoles, mais aussi conseiller municipal, je le rappelle.
Oui, conseil municipal, mais sur aucune liste, dans aucun parti politique, totalement indépendant. Nous, ce que nous disons, quand on dit les laisser tranquilles, c'est très simple, c'est qu'on ne veut pas que l'islam et les musulmans et les musulmanes soient au centre des débats politiques dans la perspective des présidentielles, parce qu'on a le droit à quoi régulièrement? À une surenchère à la fois d'islamophobie des uns et des autres. Regardez, cette fois, c'est pareil, je ne donnerai qu'un exemple. Qu'un seul exemple, je veux qu'on prenne. Il y a 51 articles, mais ils sont tous du même acabit. C'est une atteinte au droit du culte. Ça veut dire quoi? L'article 44 dit, par exemple, que le préfet pourrait, à partir de propos tenus dans une mosquée, d'idées ou de théories qui amèneraient à la haine contre un groupe de personnes ou je ne sais quoi, fermer une mosquée. Le problème, c'est le plus total. Comment est-ce qu'un préfet peut objectivement dire qu'il y a une atteinte en quoi que ce soit aux uns ou aux autres? Et
ouais.
c'est cet arbitraire qui est présent transversalement à tous les articles de loi présents qui font que les préfets pourront faire ce qu'ils voudront, l'administration pourra faire ce qu'elle voudra, ici fermer une association parce que ça s'attaque aussi aux associations, qu'elles soient culturelles ou pas, et donc une association demain se verra fermer le robinet des subventions si des fois on parlerait de,
alors que c'est...
de manière abusive.
Alors
c'est une véritable atteinte démocratique
à tout ça. Qui est en colère? Je parle de vous. C'est le professeur républicain, c'est le militant associatif, c'est le conseiller municipal. Qui est en colère au juste?
Mais je vais vous dire qui est en colère, Adil Sarkhan. C'est très simple. Celui qui est en colère, c'est quelqu'un qui est mon voisin, ma voisine, c'est vous-même, c'est tous ceux et toutes celles qui, évidemment, ne sommes pas sur des milliards de générations françaises d'origine et on en a marre d'être montrés du doigt régulièrement. Et donc, c'est à la fois, lui, un militant des droits humains, ça c'est une évidence. Celui qui est en colère, c'est tous ceux et toutes celles, notamment les femmes, qui sont les premières victimes de l'islamophobie en France et qui en ont marre qu'on parle d'elles sans elles.
Ouais.
Il y a eu d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le site du Front contre l'islamophobie et pour l'égalité entre tous et toutes, un débat de femmes féministes qui dénoncent et qui décortiquent cette loi. Vous pouvez le retrouver sur ce site.
Des femmes de tous bords.
C'est tout un chacun.
Des femmes de tous bords, Omar Slaouti.
Mais je pense vraiment que ce sont celles qui s'expriment, ça peut être des femmes musulmanes et des femmes non musulmanes. Vous savez, quand on s'attaque aux droits de certains membres de la population ou de certaines femmes, c'est pour, au final, attaquer tous ceux et toutes celles, y compris, qui n'en dépendent pas. Et donc, finalement, c'est vraiment un problème politique. Et c'est pour ça que nous le disons très simplement et très clairement.
Alors vous avez décidé de dire, vous avez tout simplement décidé de dire, autour d'un texte national, ça suffit, un appel contre la loi séparatisme et une mobilisation qui se déroule à la fois en deux temps, le 15 mars et le 21 mars, avec, vous allez nous en dire un peu plus, 70 organisations qui sont signataires. Stop, ça suffit. Alors dites-nous tout.
Le fameux ça suffit, vous voyez, le 15 mars est un meeting international parce que le 15 mars, ça fera deux ans, jour pour jour, qu'à Christchurch, un Australien a tiré sur des musulmans dans deux mosquées, 100 victimes, 51 morts et 49 blessés, et cet Australien se référait textuellement à un autre, un Français, un écrivain, celui-ci, Renaud Camus, qui a abondé dans la théorie du grand remplacement. Nous allons rendre un hommage dans un grand meeting le 15 mars, que vous pourrez suivre en ligne sur le site du Front contre l'islamophobie, égalité de tous et toutes,
ouais.
Le fameux 15 mars à 19h, meeting international, avec, ils ont pris des interventions pour décortiquer la loi. C'est
ça se passe où?
Mais le plus important, vous avez raison, Farkad, de le souligner, le 21 mars, ça va être un grand moment national, un très grand moment national, puisque nous allons occuper les rues à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Marseille, à Grenoble, à Paris, et j'en passe, à Saint-Étienne, etc. Il va y avoir des manifestations partout le 21 mars contre cette loi séparatiste. Allez sur notre site Front contre l'islamophobie.
Ça se passe où, Omar Slaouti? À Paris?
À Paris, ce sera à 14h, Châtelet. Et puis, pour ceux vraiment qui ont des bonnes baskets, la mobilisation contre la loi séparatiste, ça commence même ce dimanche-là, parce que dimanche 14, la coordination contre la loi séparatiste s'appelle aussi une mobilisation à Paris. Vous voyez, il se passe plein de choses. Retenez ces dates-là, le 14 mars, le 15 mars, le 21 mars. Ça fait beaucoup dans un agenda. Moi, j'ai conscience que ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être en train de conduire et rentrer du travail parce que, voilà, c'est comme ça. Mais allez voir le site Fonds contre l'islamophobie pour l'égalité entre tous et toutes.
Je vois.
Et attention qu'on soit musulmans.
C'est déjà présent sur les réseaux sociaux, effectivement.
Absolument.
Non à l'islamophobie et puis stop, ça suffit. Omar Slaouti, merci d'avoir été avec nous. On va évidemment suivre cela. Vous êtes professeur sur la ville d'Argenteuil, vous êtes conseiller municipal, vous êtes militant associatif du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir. Merci beaucoup à Adil Farkad, merci à Beurre FM.
Et on a bien noté les dates différentes, évidemment, concernant les rendez-vous. 17h33, avec quelques minutes de retard, la signature géopolitique de Pascal Boniface.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf avec Pascal Boniface. Bonjour Pascal.
Bonjour Adil.
Comment ça va mon cher Pascal? Plaisir de vous retrouver.
Comme un vendredi.
Comme un vendredi qui se porte évidemment bien. Vous avez décidé, vous, de faire un choix concernant un sujet autour d'une jeune femme.
De Lula.
Lula, c'est ça.
Voilà.
Donc, alors pour quelle raison?
Alors, parce qu'un juge...
La brésilienne.
A annoncé... Effectivement, oui, la justice brésilienne, qui n'est pas tout à fait jeune, qui n'est pas toujours indépendante d'ailleurs, et un juge brésilien a décidé de lever, pour des motifs de forme, les accusations qui étaient portées sur Lula et qui, on s'en rappellera, l'ont conduit non seulement à ne pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, qui du coup a vu Jair Bolsonaro être élu, mais qui l'a même conduit en prison. Il a été accusé de corruption. Et un juge a cassé ce jugement, pas sur le fond, parce qu'il peut toujours être jugé sur le fond par la suite, mais en disant que le juge Moreau, qui avait instruit le procès de Lula, n'était pas qualifié pour le faire. Et là, en fait, effectivement, le juge Moreau s'était saisi du dossier au nom d'une lutte contre la corruption. Les motifs invoqués n'ont jamais été réellement prouvés, même si on sait qu'il y a eu de la corruption au Brésil, notamment au parti des travailleurs de Lula, mais pas Lula lui-même. Mais surtout, c'est que le juge Moreau, dès que Bolsonaro a été élu, est devenu son ministre de la Justice.
Ouais.
Donc on voyait bien qu'il y avait une instrumentalisation. Et d'ailleurs, les Brésiliens, beaucoup de Brésiliens disent auparavant, on avait des coups d'État militaires, et là on a eu un coup d'État juridique, puisqu'on s'est servi du droit, de la justice, pour emprisonner et empêcher Lula de se présenter, alors qu'il était donné gagnant pour les élections.
Oui, mais Lula, quel est leur lien avec la question géopolitique, mon cher Pascal Boniface?
Ah ben, Lula, c'est quand même le Brésil, un Brésil tout à fait différent du Brésil de Bolsonaro. C'est un Brésil progressiste, c'est un Brésil qui lutte contre le réchauffement climatique, c'est un Brésil qui ouvre des ambassades en Afrique et qui s'oppose aux géants américains, alors que Bolsonaro se qualifiait d'être le Trump du cône sud. Et donc, c'est un Brésil tout à fait différent. C'est un Brésil qui joue beaucoup plus dans la carte du multilatéralisme et qui s'oppose aux mesures d'agression. C'est aussi un Brésil qui a... Bolsonaro est très lié à Netanyahou, Lula l'était beaucoup moins.
Vous me pardonnerez, Pascal Boniface, parce que je me suis noyé dans mes notes. J'ai parlé de jeune fille parce que je faisais référence à Rousseff, je sais pas pourquoi. Vous me pardonnerez.
Ah, alors, Dilma Rousseff, vous avez raison, parce que Dilma Rousseff a
succédé
à Lula.
Oui.
Et elle-même elle a eu une procédure d'impeachment au nom d'une corruption qui n'a jamais été prouvée contre Dilma Rousseff. On l'a accusée d'avoir embellit les comptes de la nation. Elle a été accusée par des gens qui, eux, étaient fortement corrompus, notamment le vice-président Temer.
Oui.
Et Dilma Rousseff, donc, a été démise de ses fonctions. Elle avait succédé à Lula. Elle appartenait au même mouvement. Et du coup, elle n'avait pas pu être présente pour les Jeux Olympiques. Et on peut dire que autant le Brésil était un pays, disons, dans une lignée tiers-mondiste, active sur la scène internationale, tant que Lula et Dilma Rousseff étaient au pouvoir, et par la suite, lorsqu'on parle du Brésil sur le plan diplomatique, c'est en termes négatifs par rapport au climat, par rapport au multilatéralisme, par rapport au lien avec, disons, l'ouverture aux capitaux américains, etc. Donc c'est vraiment... Ouais. Tout à fait différent. Alors, il va y avoir les élections.
Mais alors, Lula, il n'hésite pas à tirer à boulet rouge, dit donc, sur le chef de l'État, Bolsonaro. Et pour quelle raison, d'ailleurs? Parce qu'il y va, y compris avec des insultes, parfois, des décisions.
Oui, alors, c'est vrai que le langage est un peu vif. Enfin, tout simplement, Bolsonaro est une catastrophe. Le Brésil est le deuxième pays le plus atteint par la crise du Covid-19. Bolsonaro, lui, dit qu'il ne faut pas se protéger, c'est pas la peine de se vacciner, c'est pas la peine de mettre des masques, c'est pas la peine, lui-même d'ailleurs, pourtant, a été atteint par le Covid-19. Et donc, le Brésil, qui est déjà un pays pauvre, et qui s'est appauvri, c'est que tous les bénéfices sociaux du temps de Lula, 40 millions de Brésiliens ont été sortis du seuil de pauvreté. Tous ces Brésiliens ont été ramenés. Les différences sociales et les différences ethniques, Lula luttait contre le racisme au Brésil, qui existe, il y a à la fois un racisme ethnique et social. Et ceux qui ont voté Bolsonaro n'acceptaient pas, notamment, que les domestiques, les gens de service, aient des droits égaux, commencent à réclamer les droits, et que les Noirs puissent, par exemple, aller à l'université pour de Bolsonaro, c'est quelque chose d'inadmissible.
Oui, mais j'ai envie de vous dire, vous, le spécialiste de la géopolitique internationale, Pascal Boniface, c'est de bonne guerre, c'est un discours de candidat, mon cher Pascal.
Oui, mais Lula a prouvé que lorsqu'il était au pouvoir, il a changé les choses. Il a vraiment fait du Brésil un pays non seulement plus actif diplomatiquement, mais un pays plus juste. L'ancien président brésilien Cardoso disait « Le Brésil n'est pas un pays pauvre, c'est un pays injuste. » Parce que derrière quand même l'image, oui, les cariocas, les plages, le football, il y a quand même des différences sociales, des inégalités et des discriminations raciales extrêmement fortes. Nous, on voit bien sûr la samba, l'équipe de football, mais discrimination raciale au Brésil, qui a été le dernier pays à abolir l'esclavage en Amérique latine, sont toujours très fortes et sont marquées par cette période.
Et enfin, donc, ce qui est en train, si je vous écoute attentivement, mon cher Pascal Boniface, de nouveaux défis attendent le Lula, si j'ai bien compris.
Oui, parce que tout simplement, il pourrait se présenter aux élections présidentielles de l'an prochain. Et s'il se présente, les sondages le créditent de 15 points d'avance sur Bolsonaro. Et parce que Lula reste quand même le président charismatique, le président qui a donné, avec Bolsa Familia, a permis à des millions de Brésiliens de ne plus se coucher en ayant faim. Ouais. Et ça reste bien sûr marqué dans les consciences. Et puis, j'ai eu quelques fois l'occasion de l'approcher, c'est quand même un personnage charismatique qui a un formidable tribun. Et donc, on peut penser que Bolsonaro ferait piètre figure contre lui. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été empêché de se présenter il y a 3 ans.
Il a gouverné de 2003 à 2009, non ?
Alors, jusqu'en 2012-2011. Et d'accord. Ensuite, Rousseff, il a fait 2 mandats, jusqu'en 2010. Puis Rousseff lui a succédé. Et elle était à son cabinet, Rousseff qui... comme lui, a souffert de la dictature, était torturé. Lula était analphabète, il a appris à lire à tout seul, il avait faim quand il était petit, il ne pouvait pas aller à l'école. Et c'est en étant syndicaliste qu'il a appris à lire et écrire.
C'est ce qu'on appelle l'agnac.
Voilà.
Merci.
Donc, respect.
Donc respect, absolument. Merci pour cette analyse pointue de la géopolitique internationale concernant le Brésil. Mon cher Pascal Boniface, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir.
Toi aussi, Adil, bon week-end et à vendredi prochain avec grand plaisir.
Avec grand plaisir également.
Le grand déballage, le quoi de neuf?
C'est la pub, non? Déjà, effectivement. Et on se retrouve avec les 4 débatteurs qui sont autour du plateau. Allez, je vais les saluer. Abdeslamitage, bonjour.
Adil.
Comment ça va?
Très bien, je suis content d'être là.
Le retour d'un ancien que je n'avais pas vu depuis l'année dernière d'ailleurs. Rudy Cassi, comment ça va? Rudy Cassi,
très bien.
Ça va bien, plaisir de vous retrouver, dites donc.
Ouais, et d'ailleurs,
toujours la classe, la cravate, le truc.
Non, rien de fou.
Moi, je ne t'ai jamais vu sans cravate.
Parfois, ça arrive.
Je ne l'ai jamais vu sans cravate. Moi, je ne l'ai jamais vu sans cravate. Je l'ai toujours vu avec une cravate.
Comme un vendredi, c'est plutôt Emmanuel.
C'est Emmanuel.
Comme ça tout le temps.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu.
Comme Pascal.
Quand vous êtes conférencier.
Non.
Si.
Alors, ça dépend des conférences.
Je vous ai déjà vu avec une cravate quand vous êtes conférencier.
Il est possible qu'effectivement j'en mette
la photo.
Ah, si.
Il y a une photo sur Instagram.
Sur les réseaux sociaux, ça
va. Il y a une photo sur Instagram où tu as une photo, une cravate.
Mais non, j'ai fait tomber la cravate.
Ouais.
Parce que j'estime que ça n'a pas aucune. Plus aucune espèce de, comment dire, de légitimité dans le temps où on n'a pas besoin d'affirmer son autorité par ses oripeaux d'un autre
temps. Dis donc, celui qui
je parle un peu comme Jean-Luc Mélenchon, vous savez que ça a créé une polémique parce qu'à l'Assemblée nationale, théoriquement, tous les parlementaires ont droit.
Allez, je dois lancer la pub.
L'obligation
de celui qui est à vos côtés, je vais le saluer, vissé, casquette vissée et blouson militaire. Bonjour Nadir Kaya. Vous
bonjour
êtes prêts à vous, ça y est, vous voulez en découdre avec la fight. Eh bien, on va fighter aussi avec la pub. Et évidemment, je plaisante, mais ça veut dire qu'on va lancer la pub. A tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Le grand déballage revient dans un instant.
17h47, 48 précisément, désolé pour ce léger blanc, on a eu un petit souci évidemment entre la pub et le lancement. 17h48 et c'est le grand déballage en live et en direct avec Abdeslam Itach, avec Rudy Kassi, avec Nadir Kaya et enfin Emmanuel Dupuis. Allez, tout de suite messieurs, je vous donne la parole. Jusqu'à 19h, nous sommes ensemble, on va tout de suite parler des quatre sujets qui ont retenu notre attention. Je vais démarrer évidemment, je le rappelle d'ailleurs au sommaire, violence, RICS, c'est ce poison ou ces poisons qui gangrènent l'Île-de-France. Pardonnez-moi, je tousse en même temps. La preuve, c'est du direct, vous voyez. Voilà, l'Algérie, évidemment, et ses archives avec la déclaration d'Emmanuel Macron. Je reviendrai aussi, vous savez, sur Marine Le Pen. Marine Le Pen qui dit « Je pense que je vais gagner la présidentielle ». On en reparlera. Et puis le Covid, cette préoccupation, évidemment, du gouvernement et de l'exécutif, très embarrassé par la situation. Messieurs, alors, la violence. Les RICS, évidemment, les bandes rivales. On est en train d'assister ces derniers jours, quand même, à des actions terribles. Nadir Kaya, je me souviens de vos propos ici. Vous nous aviez attiré votre attention sur le fait que, évidemment, vous aviez tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Vous répondez quoi ? Parce que elles se sont multipliées, ces bandes rivales. Les RICS, depuis quelques jours, on n'entend parler que de cela. Est-ce que la situation est en train, évidemment, de prendre une autre ampleur ? Mais surtout, comme dit un spécialiste, est-ce que ce n'est pas Internet qui provoque cela ? Est-ce que ce n'est pas Internet qui pousse à plus de violence encore, qui gangrène notamment notre Île-de-France ? Franchement, disons-le.
Alors, je ne suis pas le seul à tirer la sonnette d'alarme concernant ces phénomènes-là, parce qu'ils existent depuis toujours dans les quartiers populaires, et ça a toujours existé.
Oh, mais là, c'est un phénomène nouveau, Internet.
Alors, le phénomène nouveau, c'est les réseaux sociaux, et cette impression d'amplification et de récurrence très courte, surtout là dans le temps, en une semaine, on a vu pas mal de choses.
On dirait une concurrence ?
Non, j'ai entendu ça, je pense pas que c'est une concurrence. Malheureusement, c'est pour la plupart d'entre eux une jeunesse qui souffre, et qui souffre encore plus aujourd'hui au vu du confinement, du couvre-feu et de tout ce qu'on subit depuis plus d'un an. Maintenant, il faut le savoir, déjà nous-mêmes en tant qu'adultes, on commence à être très fatigués de cette situation. Alors imaginez des enfants de 13 ou 14 ans qui pour certains n'ont plus accès au sport, à la culture, à l'art. Bien évidemment, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est ces quartiers populaires. On a déjà dit des mots là-dessus. Aujourd'hui, pour ceux qui s'inquiètent ou alors qui donnent l'impression de découvrir les choses, il faut revenir toujours pareil à l'histoire des quartiers populaires. Si on a vraiment la volonté d'avoir un débat intellectuellement productif, il faut aspirer à des réponses. Mais aujourd'hui, il y a que des gens comme nous, c'est-à-dire issus des quartiers populaires, qui peuvent avoir des réponses. Et les réponses sont souvent très simples et devant nous. Et les réponses sont la justice, remettre réellement les devises de la République au quotidien.
Oui, mais Nadir Kaya, vous répondez pas à la question.
Oui.
Parce que je vais vous relancer sur évidemment un point. Vous dites que évidemment les quartiers populaires, vous connaissez. On dit que c'est un phénomène. Enfin, le ministre, notamment de l'Intérieur, dit que c'est un phénomène très francilien, propre à l'Île-de-France. Ces phénomènes de RICS qui se multiplient d'ailleurs de plus en plus. D'accord. Et que est-ce que franchement, le Covid, c'est une explication ? Est-ce que le fait, évidemment, qu'il y a, pour le moment, un manque, évidemment, d'entrée dans la culture, le monde sportif, etc., le fait que ça se multiplie, ces affrontements entre bandes, qui, je le rappelle, Nadir Kaya, sont à la hausse ?
Alors, je ne pense pas que ce soit un phénomène exclusivement parisien ou de la région parisienne. Hein. Il faut voir aussi que dans le passé, il y avait aussi souvent des problèmes du côté de Lyon, du côté de Marseille et ailleurs. Il y a également ce genre de RICS dans le domaine du sport, au niveau des supporters. Donc c'est pas propre aux quartiers populaires. Mais simplement, Moi, ce que je veux dire là-dessus, je ne pense pas qu'il y a un accroissement. Hein. Je pense simplement que ça a toujours existé, mais les réseaux sociaux donnent cette vision un peu différente.
Bah, on parle des nouvelles technologies, on parle d'Internet.
Oui, mais ça a toujours existé. Moi, j'ai connu ça dans les quartiers.
Ça a toujours existé.
Très simplement, moi, je l'ai vécu quand on était jeune. C'était quartier contre quartier, ville contre ville.
Là, il y a le phénomène nouveau, c'est les nouvelles technologies.
Non, mais les technologies.
On a un portable aujourd'hui, les nouvelles technologies. Vous aviez pas de portable.
Les nouvelles technologies mettent simplement en exergue.
On met en scène.
Mettre en exergue une situation qui existe depuis toujours. Après, qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui se servent de ces situations pour amplifier les choses, il n'y a pas de débat là-dessus, effectivement. Mais il faut revenir au passé, ça a toujours existé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ou 40 ans, concrètement, notamment au niveau des gouvernants? Pas grand-chose, parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Non, mais il y a des mesures qui sont dites. Mais concrètement, c'est pas des mesures qui aboutissent à des résultats, parce qu'on ne travaille pas avec les interlocuteurs du terrain.
Je distribue la parole. Tiens, justement, Rudy Cassis, je donne la parole à Emmanuel et Abdeslam. Rudy Cassis, il y a un manque d'autorité parentale, clairement, disons-le, oui ou non?
Moi, je pense clairement. C'est-à-dire, on assiste à une période où, effectivement, il y a certains pans de la société qui sont totalement en déliquescence. Quand on parle des quartiers, là où moi aussi j'ai grandi, j'ai été élevé par une famille à une époque où il y avait très peu, par exemple, de familles monoparentales. Il faut aussi interroger une société de consommation où effectivement il faut que tout le monde ait les baskets dernier cri, les téléphones portables dernier cri, etc. Ouais, et donc il y a un détachement en fait avec le réel qui existe, qui avait commencé à notre époque avec l'américanisation un petit peu des quartiers, mais qui s'est amplifié parce qu'aujourd'hui en fait on n'a plus la valeur des choses. À l'époque, nos parents nous inculquaient la valeur des choses, parfois des grands frères, etc.
Aujourd'hui, on y arrive. Il n'y a plus la valeur des choses.
On n'a plus la valeur des choses et il y a aussi un détachement en fait.
Il y a une fracture intergénérationnel, ça c'est une réalité.
Et un détachement aussi par rapport au réel qui est amplifié par les réseaux sociaux, parce que le rapport à l'image n'est pas le même que nous on avait à l'époque quand on regardait la télé, les trois premières chaînes ou les six premières chaînes. Donc il y a de ça. Ensuite, ces familles monoparentales, faut interroger aussi ces pères qui disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi j'ai grandi avec, on parlait de mon grand-père tout à l'heure, ça a été une figure d'autorité pour moi, et c'est peu de le dire, quelqu'un qui a une grande carrière
politique. Un petit mot quand même sur votre grand-père qui d'ailleurs est décédé il y a quelques jours,
hein. C'est ça,
évidemment, sincères condoléances, Rudy, à vous et votre famille. Une grande personnalité politique au Congo.
Tout à fait, aussi,
je
peux ouvrir une petite parenthèse. Oui, mon grand-père a été très impliqué notamment dans l'indépendance et la lutte contre contre la colonisation, et puis après il a eu des responsabilités plusieurs fois politiques. Il est décédé malheureusement il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Ça a été un grand panafricaniste. Une des anecdotes le concernant, c'est qu'il a dû faire de la prison au temps où il se battait contre l'ordre colonial de l'époque pour avoir distribué des tracts pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est vrai que là, ça va faire le lien. Et je comptais rebondir
grand
là-dessus.
Grand monsieur, mais son après, papa, son grand-père. Hein.
Ouais. Et je comptais rebondir là-dessus après parce que c'est vrai que l'Algérie était un peu la locomotive des pays indépendantistes à l'époque, et mon grand-père a fait partie des leaders panafricains
emprisonné.
De l'époque.
Ouais. Emprisonné.
Par deux fois.
Grand monsieur, je tiens à le dire, grand monsieur, et respect pour votre grand-père.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai beaucoup lu sur ce qu'il a fait, effectivement, et d'ailleurs, soutien total.
Il s'appelle Aimé Matika.
Ouais, exactement. Grand monsieur, et d'ailleurs, vous avez tout notre soutien et mes hommages, mon cher Rudy Cassis. On revient sur le sujet.
Oui, pardon. Donc, oui, alors
mais
c'est
on va marquer la pub et je vous redonne la parole. D'accord. Non, mais c'est pas ça y est, pas du tout. Vous allez me la refaire. Hein. Et à chaque fois qu'il y a la pub, ça tombe sur moi.
Je pensais qu'il y avait la pub. Ça arrive souvent.
Il me disait dans le passé, vous savez ce qu'il me disait, Rudy? À chaque fois que vous me donnez la parole, vous me faites couper par la pub. Et ben voilà, c'est comme ça. On lance la pub et on se retrouve. C'est ça. On lance la pub, on se retrouve tout de suite après. Tout de suite. Ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Voilà, Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, nous sommes ensemble encore jusqu'à 19h et ensemble justement avec Abdeslam Itache, avec Rudy Cassis, avec Nadir Kaya et enfin avec Emmanuel Dupuis. À 18h précise, nous retrouverons Maître Philippe-Henri Honegger. Deux minutes pour finir vos propos, Rudy Cassis.
Oui, donc... De toute façon, il y avait une question aussi
sur les
solutions apportées sur les RICS.
Oui.
Moi, je pense que au niveau des solutions, il faut restaurer l'autorité parentale, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, comme je le disais, de familles monoparentales.
On l'a perdu.
C'est vrai. Il y a bien sûr. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir avec 3, 4, 5 enfants, obligées de multiplier
vrai.
Les boulots.
C'est terrible.
Parce que voilà. Donc ça nous ramène aussi à la responsabilité de l'homme dans cette société. Quelle est la responsabilité que
vous
l'homme
vous êtes en train de me dire que l'homme a une évidemment une dans
mais il y a trop d'hommes démissionnaires. Il y a trop d'hommes démissionnaires. C'est terrible. Ça veut dire en fait qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, qui sont livrés à eux-mêmes.
Non, mais c'est important ce qu'il dit, parce que je voudrais voir. Je laisserai les auditeurs 0153483000 nous dire s'ils partagent le point de vue de Rudy. Les hommes, ont démissionné. Est-ce que c'est vrai?
Dans les quartiers, j'avais mené des actions comme ça, où je parlais effectivement, parce que c'est vrai que dans les cultures afro, maghrébines, etc., il n'y a pas toujours un lien très fort avec le fils, en fait. C'est pas toujours le cas.
Oui, mais votre déclaration.
Et qui fait que le jeune homme, en fait, va aller chercher de l'affection en se faisant remarquer, en faisant des bêtises dans la rue.
Oui, il a raison. Parce qu'il n'y a pas cette présence d'homme.
Une éducation qui se fait par le silence et l'observation.
C'est ça.
Non, mais il y a quand même une question de présence. Mais est-ce que les hommes, oui ou non, ont démissionné? Emmanuel Dupuis, s'il vous plaît, je vous redonne la parole à Nadir Kaya.
Je ne voudrais pas genrer la réponse. Il y a un manque d'autorité. Pourquoi? Parce que dans le principe d'une famille...
Parentale ou pas?
En général, mais là on parle de la cellule familiale.
Oui, mais dis quelque chose d'intéressant. Non,
mais j'essaie de vous répondre.
Oui, pardon.
À partir du moment où c'est pas l'autorité du père, après tout, une mère peut avoir de l'autorité. La question.
Ouais, mais Rudy, c'est quelque chose de très juste. Du père, elle est la représentation n'est pas la même.
Extrêmement
importante. Elle n'est pas la même. C'est pas la même.
Par rapport aux jeunes dont on parle.
C'est pas la même. Mais c'est pas la même.
L'élément le plus important, c'est qu'il y a une perte d'autorité sur une perte de symbole sur ce que veut dire l'autorité. Comment l'autorité s'exprime? Il y a plus de sanctions. Ou accessoirement, ni la justice, ni à l'école, ni l'autorité politique n'a la capacité de faire admettre le principe de la gradualité par rapport à la gravité des choses. Ouais. Quelques éléments de réponse avant de donner la parole à Maître Neguer. Premièrement, c'est une question qu'on a largement débattue avec mon ami Nadir. Nous avions parlé de cela avec Nicolas Jeanneté, qui était venu aussi sur votre plateau, pour qu'il y ait une mobilisation aussi au niveau de l'endroit où on a l'impression qu'il y a une focalisation médiatique. Je ne suis pas tout d'accord avec le ministre de l'Intérieur. Ça se passe partout en France. Le phénomène des RICS n'est pas un phénomène francilien. C'est un phénomène qu'on trouve même dans les milieux ruraux. C'est ce que j'avais dit dans une autre antenne. Donc, ça nécessite une vigilance et une planification nationale. La semaine prochaine sera présenté un plan RICS qui va générer de la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas du tout convaincu que ça aboutisse à quelque chose. Pourquoi ?
Pas convaincu.
Parce qu'il y a quelques heures.
C'est l'entre-soi.
Parce qu'il y a quelques heures. Déjà, parce que c'est l'entre-soi. Et parce qu'il y a quelques heures, le plan RICS proposé au niveau du Conseil de Paris n'a pas été voté. Pour des raisons politiques. Parce que je crois qu'effectivement, ce qui vient d'une certaine façon aggraver la situation, c'est qu'on a une idéologisation, une sorte d'identification politique qui se fait entre ceux qui, et Nicolas Jeanneté l'avait évoqué, qui essayent de comprendre pourquoi il y a cette motivation de la part de ces jeunes. Nadir l'a redit, l'inactivité intellectuelle et physique qui, d'une certaine façon, doit s'exprimer. Le besoin de territorialisation qui n'existe plus, parce que les jeunes se retrouvent n'ayant plus de lieu, de symbole, de temporalité du rassemblement. Donc le territoire et les lieux de rassemblement qui, d'une certaine façon, devient une sorte d'exutoire. Quand vous dites ça, vous avez l'impression, non pas que vous expliquez le phénomène, mais que vous essayez de le comprendre. Et il y a ceux qui ne veulent pas le comprendre en disant que le phénomène de RICS, c'est l'ultra-violence et qu'il faut le traiter
Emmanuel,
de manière massificateur.
Vous faites référence à Nicolas Jeanneté. Rappelons quand même à nos auditeurs que Nicolas Jeanneté avait été invité ici, conseiller de Paris notamment, et c'est un centriste, un élu centriste qui a, je le rappelle, sur notre antenne ici dans le Grand Déballage, a provoqué du buzz sur les réseaux sociaux en mettant en cause justement des jeunes qui ne peuvent plus aller ni au sport. C'est ce que vous disiez, Nadir Kaya, finalement. Il a expliqué. La culture.
C'est pas que ça. Rajoute à déjà une situation déjà existante.
Mais Nicolas Jeanneté explique évidemment la résurgence des affrontements entre bandes sur notre antenne. 18h03, oula.
Bonjour, juste d'une phrase aussi, avant de redonner la parole à Abdeslam. Nicolas Jeanneté expliquait aussi qu'il faut qu'il y ait une responsabilité politique. Quand, d'un côté, vous vous offusquez du fait qu'il y ait une multiplication des RICS et de l'autre, que vous raboter le financement des organisations et des associations qui forment les mentors ou qui forment les éducateurs de rue, après, il ne faut pas s'étonner que s'il y a plus de liens sociaux, de liens sociaux,
messieurs,
ben on soit dans la.
Avec du retard, il y a Maître Philippe Henri Honegger qui est avec nous et son édito juridique.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Maître Philippe Henri Honegger, chez Ruben et Associés, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous, Adil?
Mais très bien, mon cher maître, comment allez-vous, vous aussi?
Ça va parfaitement.
Vous avez
ça
décidé très, très de nous parler, de consacrer votre billet d'humeur autour de la question des violences des jeunes.
Bah oui, vous en parlez visiblement avant que j'arrive, et donc je me suis dit que j'allais rajouter mon petit grain de sel. Et puis, il faut dire qu'on en parle beaucoup, on en parle partout cette semaine. C'était difficile d'échapper à cette question, est-ce que notre jeunesse française est de plus en plus violente? Et c'est vrai que on a eu trois faits dans les deux dernières semaines qui permettent de s'inquiéter. Et puis tout d'un coup, face à ces trois faits dans les deux dernières semaines, on se dit, mais c'est un phénomène de société. Et c'est vrai qu'il y a une émotion légitime face à ces faits-là. Et puis c'est des enfants ou des très jeunes, et on se dit, mais c'est terrible. Cette émotion, malheureusement, je pense qu'elle nous empêche un tout petit peu de penser correctement. Et on est pris par l'émotion, et on se met à hurler, et on les entend, ceux qui nous disent « Mais c'est l'ensauvagement, c'est terrible, on n'a jamais eu une jeunesse aussi violente. » Ben, vous savez quoi ? Sortons un tout petit peu de l'émotion, et prenons un tout petit peu de recul. Parfois, ça aide à voir mieux les choses. Et si on prend du recul, est-ce que vous connaissez les Apaches ?
Ah, moi je connais, mais
j'allais
après,
en parler.
Je connais très bien, mais après, comment vous la tournez, évidemment?
Alors, les Apaches dont je veux vous parler, mais dont votre invité voulait vous parler, c'est pas les Indiens. Les Apaches, c'est en fait des bandes de jeunes au début du XXe siècle. Des jeunes avec des couteaux, des jeunes dans des bandes, des jeunes qui traînaient avec des filles, des jeunes à qui on reprochait de commettre de terribles violences et dont on disait dans tous les journaux, à l'époque c'était François, attention les Apaches, c'est la jeunesse, c'est terriblement violente. Et cette jeunesse-là,
Nadir,
et cette jeunesse-là, il faut absolument la punir très violemment, parce que on n'a jamais eu autant de violence chez les jeunes. On a, et à l'époque, vous savez, les peines de prison n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et il y avait même la peine de mort. Ça n'a servi strictement à rien, jusqu'à ce qu'on supprime les faubourgs de Montmartre, puisque c'est de là qu'ils venaient à l'époque, qu'on crée des écoles, qu'on les éduque, et les Apaches ont disparu.
Et la Première Guerre mondiale aussi a joué un rôle assez fort aussi pour faire disparaître les Apaches aussi.
Pas forcément dans la répression, mais... Ensuite, vous savez, on a eu les blousons noirs dans les années 60.
Ouais,
les
blousons
noirs, ils ont des couteaux, ils font des violences, c'est la recrudescence, c'est terrible. On a construit des nouveaux habitats parce qu'ils étaient dans les bidonvilles. Je ne sais pas si vous connaissez le film Max et les Ferrailleurs, ça parle de ça. Finalement, ils sont sortis de ça. Et puis, les blousons noirs ont disparu. On a ensuite eu les loubards dans les années 80. Toujours la même chose, les couteaux, les bandes, la jeunesse.
Les skins et les violences.
On a créé les conditions de leur intégration. Et ils se sont intégrés. Vous savez quoi, je vais même remonter encore plus loin. Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette, qu'est-ce que c'est d'autre que l'histoire de deux bandes rivales qui se battent pour des motifs absolument futiles, qui finissent au couteau, à l'épée et dans le drame. Alors quand on vient vous dire, c'est tout nouveau, la jeunesse de 2021, c'est une jeunesse qui n'a jamais été aussi violente, rien que l'histoire nous dit un petit peu le contraire. Et puis ce qui nous dit un petit peu le contraire, c'est les chiffres, en réalité. Parce que les chiffres, ce qu'ils nous disent, au-delà de l'émotion, au-delà de ceux qui viennent crier à droite et à gauche, c'est un que les violences, depuis plusieurs années, elles sont en baisse. Elles sont en baisse, notamment chez les jeunes. La deuxième chose, c'est que, et ça a été annoncé par le ministre de la Justice il y a quelques semaines, le phénomène des bandes en Île-de-France, il est aussi en baisse. Étonnant, parce que tout le monde vient vous dire ça augmente, et en réalité, les chiffres vous disent exactement.
C'est bon de le savoir, ça.
Et ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'on vient vous dire non, mais en fait, il y a peut-être moins de violence, mais elle est plus violente. Vous savez, j'entends ça. En fait, ils sont beaucoup plus violents qu'avant. Je vais vous rassurer, puis je vais rassurer tout le monde sur ce plateau. Depuis 20 ans, le nombre des meurtres, puisque c'est ça les infractions les plus violentes, depuis 20 ans, en France, le nombre des meurtres a été divisé par deux. Il est passé de 2000 meurtres par an à 1000 meurtres par an.
Sur quelle population ?
Dans toute l'histoire de France, nous n'avons jamais eu une période dans laquelle il y a aussi eu peu de meurtres chaque année sur notre territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce sentiment-là. Parce qu'on est tellement en sécurité, parce qu'on n'a jamais été autant en sécurité comme ça par le passé, qu'on devient beaucoup plus sensible à la violence. Et dès qu'on a un fait qui nous arrive aux yeux et aux oreilles, et bien évidemment, on le prend très mal dans l'émotion. On ne sait pas le gérer, parce qu'avant, on en tuait deux fois plus, et on y arrivait peut-être un peu mieux. Et vous savez, 1000 meurtres par an, si je vous disais tous les jours, sur tous les plateaux de télé, on recense tous les meurtres. Ça veut dire à peu près 3 par jour. Mais je vous dirais, mais ça a explosé. Ça a explosé le nombre de meurtres. Si tous les jours, on mettait 3 meurtres par jour sur les plateaux de télé. Ouais. Et pourtant, la réalité, c'est que le nombre de meurtres, il a baissé. Alors, à mon avis, ce qu'il faut faire face à ces phénomènes-là, au fait qu'on a eu 3 drames dans les dernières semaines, c'est prendre un peu de recul, c'est réfléchir, c'est regarder les chiffres et peut-être utiliser la bonne méthode qui a déjà fonctionné dans le passé, c'est-à-dire détruire les ghettos, trouver des places pour ces jeunes, essayer de les intégrer, essayer de leur donner un emploi et se dire que la répression à tout va, l'émotion à tout va, c'est peut-être pas la solution.
Bien, bravo pour ce billet d'humeur, maître Philippe-Henri Yenneguerre. Et je le rappelle, vous êtes chez Ruben et Associés.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
À la semaine prochaine avec autant de plaisir, mon cher maître.
Avec grand plaisir.
Grand plaisir partagé. 18h09, on continue. Je redonne la parole à Emmanuel Dupuis concernant... Très intéressant ce que vient de dire maître Philippe-Henri Yenneguerre.
Oui, oui, il a raison. Et d'une certaine façon, il pointe sur la focalisation de la jeunesse qui serait la cause de tous les drames. On l'a bien vu avec l'ultra-responsabilisation sur ces jeunes qui sont plus responsables que d'autres par rapport à la situation pandémique que nous vivons. J'ai écouté hier un jeune qui évoque le fait que les jeunes ne sont pas un statut, hein, c'est un âge de la vie, et qu'après tout, cette violence que l'on focalise précisément vis-à-vis de la jeunesse est quelque chose qui est utilisé peut-être aussi politiquement.
Politiquement.
Ben oui, d'une certaine façon, ça montre à quel point on peut trouver des boucs émissaires à une situation qu'on arrive mal à expliquer. Et j'en reviens juste d'un point sur ce qu'a dit maître Yenneguerre. Cette violence est d'autant plus perturbante que c'est une violence sur laquelle on focalise temporairement aujourd'hui, alors que il y a quelque temps, on avait focalisé sur les rixes entre communautés. Souvenez-vous, on avait semblé découvrir qu'à Dijon, quand une bande de Tchétchènes est venue faire le coup de force contre les Algériens, c'était un phénomène qu'on n'avait pas vu venir. Et puis juste avant ça, on avait découvert qu'il y avait des trafics de drogue et que les trafiquants de drogue utilisaient des armes de calibre, des armes de guerre, et qu'on semblait découvrir que ce phénomène est un phénomène nouveau. Et on semblait découvrir avant cela que bien évidemment, on avait des problèmes d'intégration avec un manque de moyens policiers. Donc je pense qu'il y a sans doute de notre part une façon pour nous de ne pas voir une réalité très ancienne. Je ne vais pas remonter à Roméo et Juliette, mais je remonte un petit peu, évidemment, aussi à d'autres pays où dans les années 50 ou dans les années 60, la violence urbaine dans les faubourgs de Rome était aussi une réalité.
Abdeslam Itach, et votre point de vue ?
Alors, on est à 4 jours de la journée internationale des droits de la femme, ces droits qui n'ont pas été acquis par l'ensemble des femmes, mais je vais vous parler du devoir des femmes qui ont le devoir de s'occuper de leurs enfants, qui font le rôle de la mère, le rôle du père, le travailleur, celui qui remplit le frigo et celui qui fait chauffer la marmite. Aujourd'hui, la difficulté, elle est là, et Rudy l'a bien évoqué. Lorsqu'il y a, et c'est un phénomène social, les familles monoparentales, lorsque une mère qui a 3 enfants, admettons, et a un ado qui a tendance à être régulièrement à l'extérieur, et alors qu'elle doit s'occuper des 2 petits, doit les accompagner dans les devoirs, s'occuper de la maison, et que ce jeune ne répond pas au téléphone, il peut être déjà amené à être dans la spirale de la violence, dans un entourage qui est peut-être pas propice justement à l'épanouissement.
Il est délaissé par sa maman.
Mais oui, pas par sa maman, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne peut pas être sur tous les fronts.
Broyée par son environnement.
Mais c'est un fait de société, et aujourd'hui, on le voit bien, c'est en effet, beaucoup de parents, enfin beaucoup de pères, sont démissionnaires sur ce point-là, et ça c'est un fait.
Donc c'est une vérité.
Oui, c'est une vérité.
01-53-48-3000, je voudrais vous entendre, évidemment, je vous donne la parole, 01-53-48-3000, partout en France.
Alors,
je voudrais que vous interveniez sur cette question, évidemment. Est-ce que vous pensez que les parents, le père, l'homme, est démissionnaire? Je voudrais vous entendre. D'ailleurs, femmes et hommes. Nadir Kaya, Rudy Kassi.
Je voudrais juste...
Qu'est-ce qu'il y a d'Islam ?
J'avais pas fini.
Allez-y alors.
Non, mais sur la violence, en effet, elle a toujours existé, mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, elle est mise en scène à travers les smartphones, ces vidéos qui tournent et qui se diffusent de façon virale. Aujourd'hui, elle est vue de tous. Donc, on a le sentiment qu'elle est amplifiée, mais elle a toujours été la même. Elle a toujours été la même. Donc, voilà, il faut savoir raison garder et donner les bonnes proportions aux choses. Cette violence, elle a toujours existé. Nadir l'a évoqué. Quand on était gamin, on assistait à des choses. Et je pense que c'est quasiment la même chose aujourd'hui.
Non, c'est pas la même chose aujourd'hui. Ça a pris une autre tournure, messieurs. Qu'est-ce que vous dites?
Non, Adil, les RICS...
Moi, je suis d'accord avec lui. La seule chose qu'on peut observer, je pense, c'est le fait que les enfants sont de plus en plus jeunes. J'ai regardé encore des chiffres tout à l'heure sur les jeunes qui... Non, 12-13 ans.
Non,
12-13 ans. J'ai regardé les chiffres, là, et notamment les derniers qui sont morts, 13, 14 ans, 15 ans.
C'est vrai, vous avez raison.
Moi, je me souviens, c'était plutôt entre 15 et 18 ans où on était vraiment virulent. Ouais. Là, je trouve ça extrêmement jeune. Et je profite de cette occasion, vous m'excuserez, pour souhaiter toutes mes condoléances à la famille de Alisha, qui est décédée à Argenteuil, sous une autre forme de violence, qui n'était pas une RICS, mais c'était plutôt de la jalousie entre jeunes, mais ça reste aussi de la violence. Et c'est des phénomènes, malheureusement, qui existent de plus en plus. Et ça, là, on peut dire que c'est en partie à cause des réseaux sociaux.
Emmanuel,
je vais rebondir sur ce que tu dis, sur la précocité de cette jeunesse, qui non seulement est précoce dans la violence, mais elle est précoce aussi dans des comportements d'adultes. Ça, par exemple, ils se fréquentent de plus en plus tôt. Il y a une sexualité qui est découverte.
Débridée, qui est même exposée, qui est même vendue.
Et ça
vendue.
Fait en fait que cette jeunesse a du mal, en fait, à intégrer des phénomènes émotionnels, en fait, et à les gérer. Et ça pousse, en fait, à ce genre de choses. En fait, on a une jeunesse qui a du mal à gérer ses émotions aujourd'hui. Moi, je vais donner un tout petit témoignage, et je vais pas citer trop de noms.
Allez-y, Ruth.
Mais j'ai, comme nous tous, autour de la table, on a des enfants. Moi, j'ai un de mes enfants qui est au collège, et là, aujourd'hui, depuis aujourd'hui, ce matin.
Quelle classe?
J'ai eu sixième. J'ai eu à gérer une affaire où des enfants voulaient s'en prendre, pas physiquement, mais déjà verbalement. C'est là que commence, en fait, une
affaire. Et là, le père intervient. Et lui-même va devenir violent.
C'est vrai qu'il y a un travail à faire aussi avec l'éducation nationale.
C'est un problème.
C'est très intéressant ce que vous dites.
Parce qu'il y a aussi une autre question. Il y a aussi la question du racisme. Par exemple, moi, mon fils, il y a 2 ans, qui a été insulté, en fait, de sale nègre par un gamin.
À 2 ans?
L'école, il y a 2 ans.
Ah, il y a 2 ans, j'avais compris. D'accord.
Il avait 7 ans.
De sale nègre.
Il avait 8 ans, c'est ça, tout à fait. Et quand je me suis insurgé sur la question, on m'a dit oui, mais en fait, c'est un gamin qui pose toujours des problèmes. Et le rectorat est au courant. Donc, il y a aussi.
Donc on laisse passer sale nègre.
Ben, en fait, l'éducation nationale ne devrait pas être l'éducation nationale. Elle devrait être, en fait, l'instruction nationale et l'État devrait aider, en tout cas, les parents, avoir plus de moyens.
Moi, ça me rassure pas, messieurs, tout ça.
Les familles vous savez
quoi? Vous savez quoi? Pardonnez-moi. On a pas mal d'appels. Je voudrais quand même les entendre. On a Marseille, on a Paris, on a aussi pas mal de villes. 01 53 48 3000.
Le grand déballage. Parole d'auditeur.
La parole d'auditeur, elle compte. Je voudrais donner la parole à Mélodie de Paris. Bonjour Mélodie.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en pensez alors, vous?
Moi, je pense que va passer à quelqu'un qui disait que les hommes ont démissionné de leur rôle de représentant légal. Et c'est vraiment vrai, parce qu'aujourd'hui, la femme, elle recherche aussi sa position sociale. Et elle travaille aussi beaucoup. Et la place de l'homme n'est pas très virile.
Ouais.
L'homme démissionne. Donc aujourd'hui, les femmes, elles se retrouvent. Nous, on est dans une association en famille monoparentale.
Ouais. C'est terrible. Hein.
Monoparentale, c'est à Paris. Et c'est vraiment terrible, le nombre de femmes seules avec des enfants.
Vous le voyez, vous, Mélodie, dans votre entourage?
Il n'y a que ça.
Vous vous rendez compte, messieurs, la terrible chose qui vient de nous dire Mélodie? Il n'y a que ça.
Après, il ne faut pas généraliser.
Mais attendez,
c'est un phénomène qui est nouveau en France, qui touche beaucoup de Français. Je crois que c'est une famille sur trois qui est touchée par le problème.
Mais la famille monoparentale, etc., des problèmes et les violences, elle nous dit qu'il n'y a que ça.
Les familles monoparentales ne subissent pas des problèmes.
Oui, mais Mélodie, elle est en train de dire que dans son entourage, il n'y a que ça. Moi, ça m'interroge, messieurs, pardonnez-moi.
En fait, ce qui est important de dire, c'est que la figure parentale, à un moment donné, celle du père,
finit à manquer. Et la police, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? On met les enfants de 13, 14, 15 ans en prison. On ne peut pas les mettre en prison parce qu'aujourd'hui, il faut ouvrir aussi le volet de travail.
Oui.
le travail d'intérêt général, ça aussi, il faut y penser.
Merci.
Aussi parce que les enfants, ils s'en vont dans les associations. Le fait d'aller travailler dans les associations, d'aller même
Mélodie.
Voir un peu comment ça se passe. Ouais.
Mélodie, ça peut merci.
Aussi détourner un peu le comportement de ces enfants-là.
Merci.
Les mettre en prison, c'est encore de les enrager parce que quand ils sortent là, ben, ils deviennent encore plus violents et ce n'est pas ça. Déjà, ils sont violents parce qu'ils n'ont pas un père, un représentant. Et aussi la justice.
Allez, Mélodie, je suis obligé de lancer la pub. Mélodie, merci pour votre témoignage. Il est très important, on va réagir à cela. Et je vais accueillir Nadia de Marseille tout à l'heure. Je lance la pub, à tout de suite. Restez. Voilà, voilà,
le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Et si vous venez de nous rejoindre 18h25 dans le grand déballage en direct, en live sur Beurre FM. Pas mal d'appels, partout en France. Mélodie, tout à l'heure, son témoignage, elle disait quelque chose qui m'interpelle dans son environnement, dans son entourage. Il n'y a que ça. Ça m'interroge. Je vais écouter, tiens, une autre femme qui s'appelle Nadia, qui nous appelle du sud, de la ville de Marseille. Bonjour, Nadia.
Bonjour, Adil.
Bonjour, je vous écoute, ma chère Nadia.
Eh ben, moi, je voulais vous dire que je rejoins tout à fait la dame, là.
Mélodie.
Beaucoup de Mélodie, hein. C'est vrai que ça existe chez tout le monde, en fait. Chez beaucoup de gens, en tout cas, où les parents sont démissionnaires. Le père est démissionnaire.
Mais il faut savoir aussi pourquoi le père est démissionnaire. Il y a une autre question dans une question. Il y a ça aussi, hein.
Pourquoi? Ben, en fait, quand
il... Il y a aussi des pères démissionnaires, y compris quand ils sont mariés.
Prison, mais absent.
Non, moi ce que je connais, quand ils sont mariés, la présence, la figure masculine paternelle, elle est là. Donc, quand il y a des fois un regard, et ça suffit, l'enfant, il est rassuré. Il sait qu'il y a son père ici. Donc, à la limite de la violence, elle réduit.
C'est vrai.
L'autorité.
C'est vrai, c'est vrai.
Elle réduit. Nous tous, on s'est battus à l'école. Nous tous, on a été petits. Nous tous, on a été au collège. Et on a fait partie des groupes aussi. Mais à un moment donné, je veux dire, maintenant, la violence, elle est vulgarisée, en fait.
Ouais.
C'est de plus en plus violent. Il y a plus
du côté de Marseille, c'est de plus en plus violent, justement, ou pas?
Pas plus que ça, je sais pas, en fait. Pas plus qu'ailleurs. En tous les cas, il n'y a pas des armes à la sortie de l'école. Encore un petit peu de chance, quoi.
Ouais.
Il y en a suffisamment dans les quartiers. Mais
ouais.
Oui, elle y est aussi. Mais un peu moins, quand même, parce que les mères, elles sont présentes. Et en fait, ils disaient qu'il n'y aurait plus de cartes scolaires.
Ouais.
Hein, ils ont dit, voilà, on va mettre les enfants des quartiers, n'importe où, quoi. On peut les éparpiller dans tous les établissements. Sauf que c'est faux.
Oui. Bien, merci Nadia. Merci Nadia pour votre témoignage du côté de Marseille.
Voilà, donc ce qui fait qu'en ne séparant pas aussi tous les gamins des mêmes cités, il est à la même école, au même collège, au même lycée. C'est pas possible.
C'est pas possible.
À un moment donné, bon. Si on ne casse pas et qu'on envoie nos enfants ailleurs. C'est casser les
Nadia, merci pour votre intervention. Nadia, Abdeslamitash, Rudy Kassi, Nadir Kaya, Emmanuel, on va faire un tour de table en quelques secondes et on passe au second sujet.
Ça me va très bien. Quelques secondes, juste pour dire aussi que les maires dans les quartiers ont un pouvoir que les hommes n'ont pas. Et je m'explique. Il y a eu plusieurs initiatives dans des quartiers où des mamans se sont rassemblées, ont chassé certaines personnes qui organisaient un point de deal. Et lorsqu'elles haussaient la voix et lorsqu'elles se réunissaient, ils partaient, ils ne restaient pas. Alors que les pères, en fait, lorsqu'ils y allaient, il y avait toujours ce rapport physique où
rapport
on peut arriver on peut arriver à de la violence. Lorsqu'une mère hausse la voix, il y a ce rapport fils-mère qui est important.
À l'italienne.
Et du coup, ces jeunes baissent la tête et partent.
Dans la mafia italienne, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est la mère qui décide, hein.
Non,
c'est
elle qui vient. On est dans un ordre matriarcal.
Dans la mama. Exact. Non, mais c'est vrai. Nadir Kayetia, je vous donne la parole. Juste pour faire un tour de table.
J'ai connu ça. Non, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, et puis c'est vrai que c'est des éternels débats en fin de compte. Si on veut réellement régler ça, il faut abolir les quartiers populaires.
Ouais.
Il faut les raser. Il faut un plan d'urbanisme national.
Ouais.
Il faut
Il y a l'ANRU pour ça.
Il faut obliger les maires racistes à ne plus payer d'amende pour ne pas avoir des Arabes et des Noirs. Ouais. Tant qu'on commence pas par ça,
les 25% de logement social,
à mettre des citoyens de côté et s'étonner que dans ces cages à poules, il y a des phénomènes comme ce qu'on découvre aujourd'hui. Il faut de la vraie démocratie. Il faut appliquer nos valeurs républicaines partout et de façon permanente et ne plus jouer sur le, ne plus accepter le jeu politique malsain de gauche comme de droite depuis 40 ans dans le quartier populaire. Et donc ça passe aussi. Un truc qu'il faut dire aussi, par une critique des quartiers populaires et notamment sur un manque de prise de conscience des femmes et des hommes qui habitent dans les quartiers populaires. Mmh. N'attendez rien des politiques, attendez tout de vous. Il faut se mobiliser, c'est aussi simple que ça.
Ah ben si vous avez zéro moyen, comment voulez-vous
Les moyens sont d'abord humains. Mmh. D'accord ? Quand on est conscient, on est dans l'action. La plupart des gens ne sont pas conscients. Ils sont dans l'action, dans l'expectative, même dans les quartiers populaires. Et je le redis encore, sur des phénomènes de trafic de drogue, d'incivilité, de violence, les premiers, normalement, à chercher à régler les problèmes, sans être des policiers, c'est nous. Parce que c'est nos enfants. C'est nos voisins, c'est des gens qu'on connaît. C'est très difficile, certes, mais c'est à nous de prendre conscience qu'on est les premiers à vouloir régler les problèmes. Il ne faut pas tout attendre des politiques, c'est ce qu'on attend depuis 40 ans. Et malheureusement, on a été déçus et on continuera à être déçus si on compte sur les politiciens.
Bah dans 40 ans, on dira, ça fait 80, et puis ainsi de suite.
Deuxièmement, très rapide.
Rapide, s'il vous plaît, parce que je tiens absolument à aborder le second sujet.
C'est un phénomène sociétal autant que social. Les dernières rixes se sont déroulées dans le 15e, et à 200 mètres de chez moi, dans le 16e, il y a deux jours, devant le lycée La Fontaine. Donc c'est effectivement
16e, oui.
Un phénomène qui touche les quartiers dits ostracisés, mais ça touche l'ensemble du territoire national, je le répète, rural comme urbain. Premier point.
Blessé, hein, grave.
Deuxième élément, je vous dis, à 300 mètres de chez moi. On est dans le 16e, hein. On est au cœur du 16e, lycée La Fontaine. Deuxième élément qu'on n'a pas évoqué, la responsabilité non pas des parents et de l'État, mais la responsabilité des opérateurs de téléphonie, la responsabilité de ceux qui se refusent à arrêter de diffuser des images quand il y a de la violence, notamment quand il y a eu le passage à tabac éminemment violent de Yuri, qui effectivement met en avant un autre élément. L'incapacité de l'État à obliger les opérateurs, alors même que l'on cherche à limiter l'influence à travers les réseaux sociaux, à travers les téléphones, on n'a aucun moyen juridique, la RGPD n'est pas fait pour ça, pour contraindre les opérateurs, et je crois que s'il y a un travail à faire, c'est là que l'État doit s'atteler.
En quelques secondes, Rudy, avant de passer au second sujet, s'il vous plaît.
Oui, non, alors sur les solutions, allons-y directement. Moi, je pense que pour sauver les jeunes, il faut sauver les familles. Et donc, ça sous-entend, en fait, qu'il faut soutenir les familles. Je pense qu'aussi, il faut aider... la société a aussi un devoir moral d'aider, en fait, à ce que la cellule familiale puisse permettre à donner de la densité et de la moralisation, entre guillemets, à cette société. Donc, je pense que on a des tendances qui visent plutôt à décimenter, entre guillemets, les familles. Voilà, si on prend les sites de je sais pas, moi, pour faire des adultères, ce genre de choses-là, ça va pas dans le bon sens, en fait, de la société. Bref, je dis pas que tout est lié à ça, mais lorsqu'on a des familles qui sont en déconfiture, il y a forcément une répercussion auprès de l'enfant, et chez certains enfants, ça peut être la délinquance, d'autres la drogue, etc. Ensuite, je pense qu'il faut... voilà, ça fait peut-être un peu vieux jeu, mais je pense qu'il faut ramener de la morale à l'école. Parce que moi, j'ai vécu la génération éducation civique, ça ne servait strictement à rien. La morale, moi, je pense que ça amène... Alors après, avec un petit cours un peu philosophique pour amener les jeunes, en fait, à se poser des questions, il le faut. Parce que les violences auxquelles on assiste aujourd'hui, il y a cette distance avec le réel qui fait que les jeunes ne s'interrogent pas sur la portée et la gravité de leurs actes. Donc, de la morale, je pense aussi qu'il faut, en termes de sanctions, il faut se retourner vers les pères des enfants qui sont délinquants au milieu de familles où la mère ne s'en sort pas toute seule. Voilà, parce que s'il y a une démission du père, des fois même des pères qui ne reconnaissent pas leurs enfants, pour moi, je pense que ça, c'est limite criminel. Ensuite, il faut soutenir les mères seules. Ça, je pense que c'est primordial, parce qu'on est il y a une pleine explosion de ça. Si tu vas dans le 19e, il y a une association avec laquelle on travaillait, c'était que des mères seules qui aidaient les enfants, etc. Les pères n'étaient jamais là. Même pour faire du foot, hein. Pour faire du foot. Et donc, moi, je pense aussi, il y a un truc qu'on pourrait créer un peu plus étatique, c'est de créer une sorte de mentoring, sous injonction, par exemple, du juge, pour des enfants qui pourraient être, des jeunes qui pourraient être récidivistes, entre guillemets, qu'il puisse y avoir des personnes, soit de leur famille, soit de l'extérieur, qui puissent suivre en fait ces jeunes, les aider, les cadrer, et puis faire le lien peut-être avec le monde du travail.
Et donc, Rudy, vous avez endossé évidemment le costume d'une campagne là, terrible.
Il y a un an, je n'étais pas élu. Maintenant, je suis élu. C'est peut-être pour ça.
C'est peut-être pour ça. On voit le changement de discours.
Non, mais sur un accompagnement, moi, j'avais été dans un dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur, qui était le volontaire citoyen, où moi, j'accompagnais des jeunes, et le credo, c'était l'insertion par le sport. Et je dois vous dire que je n'ai eu absolument aucun moyen financier pour pouvoir mettre en place les choses. Lorsque j'expliquais qu'il fallait acheter des gants, acheter des choses, c'était négatif, donc j'ai dû quitter. Vous voyez comme quoi, ce sont souvent de belles promesses et derrière, il n'y a pas de réalisation.
Rien n'est plus. 150 000 Allez, on doit passer au second sujet. Le second sujet, me signale le réalisateur. Macron ouvre les archives secrètes de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, Emmanuel Macron, évidemment, déclassifie les archives. Alors, est-ce qu'il est en train, évidemment, alors bien sûr, hein, tout doucement, d'améliorer les relations franco-algériennes, Nadir Kaya ?
Alors, c'est un peu compliqué cette histoire-là, parce que je suis un peu comme lui, j'ai pas vécu les événements, mais je suis, je pense, aussi comme lui, je souhaite tourner la page, mais pour tourner la page, il faut se dire les choses franchement. Et je te l'avais déjà dit, j'ai déposé il y a quelques temps plainte contre la France auprès de la Cour européenne pour génocide algérien. Non pas pour emmerder la France, mais
c'est
pour...
C'est le président qui a posé plainte, c'est vous, président de Banlieue Plus.
Oui, oui, oui. Oui. Enfin, en mon nom personnel, non, bien évidemment, en mon nom personnel, en tant que Français et Algérien, mais héritier de cette histoire sombre de la France, parce que je suis comme beaucoup, j'aimerais qu'on tourne cette page-là, parce qu'on l'entend depuis toujours, mais à un moment donné, pour tourner la page, il faut la tourner réellement, donc il faut se dire les choses. Et ça me fait plaisir qu'il continue à aller dans ce sens-là, après qu'il le fasse, pour des raisons politiques ou pas, franchement, je m'en fous, parce que déjà, personne ne l'a fait avant. Même s'il y a eu des déclarations de la part de Hollande, quelques propos de Monsieur Chirac en son temps, mais aujourd'hui, on a besoin de ça pour réconcilier ces deux pays, parce que il faut pas l'oublier, il y a plus de 3 millions d'Algériens en France, et c'est quand même important. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses. Et puis, vous avez souvent la majorité des gens qui ne veulent rien faire, et donc qui sont critiques sans avoir autre chose à proposer. Je pense que c'est intéressant parce que les archives, elles vont permettre de découvrir et de conforter ce que je peux dire, et d'autres le disent, qui sont plus compétents que moi, des historiens, sur la violence de la colonisation en Algérie. Je rappellerai qu'elle a duré 132 ans. Mmh. Elle n'a pas duré de 54 à 62, mais elle a duré 132 ans. Pendant 132 ans, on a massacré, on a emmuré, on a enfumé, on a torturé sous toutes les formes possibles et inimaginables. Ça a même inspiré des dictatures en Amérique du Sud. La France s'est vantée d'avoir une connaissance particulière et a vendu sa capacité de torturer tout type de personnes. Donc ça a été repris.
Mais sur cette question, Emmanuel Macron, c'est quand même assez inédit par rapport aux autres présidents, aux anciens présidents. Il est en train d'avancer doucement vers une réconciliation. Je vais faire un tour de table avant, mais je vous laisse finir votre propos. Allez-y, et ensuite je donne la parole à Emmanuel
Dupuis. Il y a eu tellement de violence qu'à un moment donné, il faut déjà tout mettre en avant pour que chacun comprenne la violence. Et à partir de là, essayer de trouver des relations qui vont permettre de pérenniser une vraie relation transparente entre les uns et les autres, parce que d'une part il y a la proximité de ces deux pays, il y a la proximité liée à l'histoire, mais il y a aussi cette nécessité par rapport à ces populations qu'on a entre les Algériens et les Français à pérenniser notre situation, parce que l'Algérie est un pays riche, même si politiquement c'est très compliqué. La France est un pays riche, elle a aussi son histoire, donc ils ont tous les deux intérêt à travailler pour des raisons multiples. Donc que Monsieur Macron aujourd'hui veuille ouvrir les archives, c'est très bien. Je l'invite aussi à le faire pour la partie nucléaire et déchets, parce que les déchets nucléaires jusqu'à aujourd'hui, donc il y a encore un héritage de la colonisation qui tue et qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de différents cancers et d'enfants de malformations dans le sud algérien. Donc là, Eva Joly avait déjà fait sa proposition à une époque, c'est ce qui m'avait intéressé à voter pour elle, parce qu'elle a parlé de déclassifier les archives secrètes de l'Algérie, notamment de la France, par rapport à l'enfouissement des déchets nucléaires, qui ont encore des effets aujourd'hui en 2021 sur le peuple algérien. Donc ça, c'est très important. Et j'aspire vraiment qu'on aille jusqu'au bout, une bonne fois pour toutes, pour qu'on arrive enfin à vivre sereinement.
On va continuer de faire de ce tour de table juste après la pause pub. Et on se retrouve tout de suite après, messieurs, 01 53 48 3000. Je m'excuserai auprès de tous ces auditeurs qui ont voulu intervenir tout à l'heure, mais bon, on est obligé d'avancer. Et évidemment, on a encore beaucoup de sujets à traiter. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Voilà,
le grand déballage revient dans un instant. Peur FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
8h42, on parle d'archives, on parle évidemment de colonisation. Emmanuel Dupuis, je voudrais vous donner la parole, mais comme on arrive au terme de cette ligne droite de cette émission, s'il vous plaît, si vous voulez bien, faire court et précis, vous connaissez le principe. Même si le sujet mérite, comme dit Nadir, une heure, deux heures, une journée, ce que vous voulez, mais j'en parlerai si vous voulez, je reviendrai sur le sujet. Il est récurrent le sujet, hein. Emmanuel.
C'est une question passionnelle, en quelques mots, je crois que Nadir a raison de rappeler que les archives, c'est pas seulement 1954-1962, mais c'est 1930-1970. Pourquoi 1970? Parce que peut-être les auditeurs ne le savent savent pas, à cause des essais nucléaires entre 1960 et 1966,
merci de le rappeler.
Dernier soldat français a quitté l'Algérie en 1970. Donc les archives en question, c'est pas tellement ce qu'on connaissait déjà par rapport à la guerre d'Algérie, ouais, mais c'est ce qu'on connaît pas forcément à travers la période post-colonial, en fait.
Exactement.
Les premiers jours d'indépendance. Et, accessoirement, le deal qu'il y a eu par rapport au maintien des essais nucléaires. Boumédienne et le général de Gaulle se sont très bien entendus au début de leur mandat successif. Et de ce point, le général de Gaulle avait une antériorité. Et je crois que c'est ça qui va sans doute être révélateur. En tout cas, c'est comme ça que Benjamin Stora et Mohamed Harbi ont justifié le fait qu'il faille ouvrir cette partie des archives pour que les choses soient très claires auprès des auditeurs.
Je crois à cette volonté, en tout cas.
Alors là, je serais beaucoup plus modéré que vous, cher Adil.
Mais dites-nous pourquoi.
Premièrement, parce que
je suis là pour poser des questions.
Parce que le rapport Stora, qui est un rapport d'étape, puisque le principe, c'était ensuite de constituer une commission. Je rappelle que Benjamin Stora a démissionné. Mmh. Il a rendu son rapport. Pour l'instant, il n'y a plus de commission Stora. Pire, elle ne s'est jamais mise en place. Les 22 mesures symboliques pour essayer de réouvrir une mémoire partagée incitent à penser qu'il faut que de l'autre côté, ce travail de mémoire soit fait. Et pour l'instant, à cause des contingences politiques, ouais, le président Tebboune a un pouvoir un peu fragilisé par son état de santé et par, les deux ans du Irak et le renforcement de l'autorité des militaires, d'une certaine façon, qui s'auto-amende des responsabilités qui ont été les leurs sur la période Bouteflika, fait que ce n'est pas une priorité. Donc de ce point de vue-là, pour faire l'histoire, il faut être deux. Deuxième élément, et je serai très rapide, prendrai que ces deux éléments. Je crois que l'ouverture de ces archives est une étape. Il y a eu la reconnaissance des crimes contre l'humanité, la reconnaissance que le président Macron a fait en 2017. Il y a eu la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin et de maître Boumedjelle la semaine dernière.
Il déclassifie les archives.
Il déclassifie les archives. Encore une fois, ce ne sont...
Oui, en partie.
Ce ne sont... Non, non, si, si.
Il est déclassifié. Non, clairement, c'est pas en partie.
Il déclassifie totalement.
Il trouve clairement les archives.
Il déclassifie totalement les archives pour les chercheurs.
Oui, pas pour le public.
Ouais, mais il les ouvre.
Le public, s'il veut, peut avoir accès aux archives.
C'est bien, parce que ça s'est fait en deux étapes.
Entre 1830 et 1954.
Mais quand on dit il en trouve, c'est-à-dire qu'il donne accès.
Non, il donne. Je termine d'une phrase d'Adil. Il donne la possibilité aux chercheurs d'avoir accès à des archives qui, jusqu'à présent...
Il facilite la déclassification. Voilà.
Non, non, il ne facilite pas, il l'autorise. Jusqu'à présent, il n'était pas autorisé. Et d'une phrase, si vous me tenez,
allez, s'il vous plaît.
Il y a la sonnette. En même temps, je ne suis pas du tout certain que c'est ce qu'attend la génération des jeunes Algériens. La génération des jeunes Algériens, elle a pris conscience de toutes les responsabilités des uns et des autres. Je rappelle que la mort de maître Boumedjelle n'est pas un fait nouveau. C'est déjà en 2014, à travers les confessions du général Ossarès, celui qui avait ordonné, chargé des renseignements à l'époque de la bataille de l'Alger, tout ça a été très connu. Donc je ne suis pas certain que l'ouverture d'archives de choses que l'on sait va faciliter la nécessaire réconciliation. Ce qui est important, c'est qu'on s'appuie sur ce qu'on ne sait pas. Et d'une phrase, Nadir a raison, ce n'est pas tellement la guerre d'Algérie, mais la conséquence de la manière dont nous avons continué à exploiter notre relation privilégiée avec l'Algérie à travers
les essais nucléaires. Tour de table avant de retrouver le coin de neuf avec le docteur Sioussine Abdeslam Itef.
Aussi court qu'Emmanuel Dupuis.
Ah non, mais il a été long.
Soyez court.
S'il vous plaît, si vous êtes obligé de vous interrompre.
Sur Ali Boumedjelle, le fait de reconnaître aujourd'hui que justement il ne s'était pas suicidé, mais qu'il avait été torturé puis exécuté. En effet, le général Ossarès en avait fait l'apologie dans un de ses livres. Et pour l'histoire,
confession, il avait été condamné. C'est pas lui qui avait écrit le livre.
Il en a fait la confession et il avait été condamné pour apologie de la torture, mais il n'avait pas été condamné pour la torture puisqu'il y avait eu une amnistie du général de Gaulle pour tous les crimes qui avaient été commis pendant la guerre d'Algérie. Sur les accords d'Évian, il y a des choses que l'on ne sait pas encore. Comment se fait-il qu'il y ait eu des essais nucléaires encore dans le désert algérien après 1962? Toutes ces choses-là, il faut absolument lever le voile sur toutes ces affaires. Là, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en Algérie.
Redi Kassi, et ensuite le code 9 avec Dr Sioussine.
Voilà, juste par rapport aux archives, en fait, d'après l'historien, ces archives vont principalement en fait concerner les archives du service historique de l'armée. et la direction des affaires étrangères. Mais par contre, les archives nationales, où quand même sont rassemblées les archives de toutes les sources ministérielles, par contre, c'est là où les archives et enfin où l'accès à l'archive en fait est plus limité. Ça, c'est voilà, c'est les historiens qui l'ont dit. Moi, en fait, juste en une phrase, là où je trouve que c'est intéressant ce qu'Emmanuel Macron fait, au-delà du calcul politique qu'on pourrait éventuellement lui attribuer, voilà, ça peut être bon, ça peut être mauvais, c'est que il y a une jeunesse peut-être diasporaïque, mais surtout maghrébo-descendante ou algérino-descendante, je sais pas si ça se dit, qui a besoin aussi de se construire sur des relations apaisées au travers de la mémoire, parce que c'est quand même une jeunesse qui se bouscule, et dans son sillage beaucoup d'autres jeunes issus de l'Afrique de façon générale se bousculent dans des identités multiples. Allez. À ne pas savoir où se placer à cause du regard qui est porté sur elles, qui les rapporte, qui les ramène souvent à un état en fait d'Africains, comme on disait dans les années 90, les étrangers.
Voilà. Je suis désolé de vous secouer, on arrive au terme de cette émission, et c'est le débrief avec le docteur Séoussine.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Docteur Séoussine, bonjour.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, comment allez-vous? Tout va bien, mon cher docteur?
Pas trop mal.
Quoi de neuf, docteur? Le quoi de neuf, docteur, avec justement chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aux Invalides à l'hôpital militaire. Merci docteur d'être avec nous. Votre billet d'humeur tourne autour de la petite rencontre avec Éric Zemmour. On vous écoute.
Oui, bonsoir Adil. Donc cette semaine, j'ai reçu un appel de votre ami Éric Zemmour, qui avait besoin de vider son cœur.
Ah.
Nous nous retrouvâmes dans un de ces restaurants que vous avez l'habitude de fréquenter et qui reste ouvert malgré les restrictions, et où les journalistes, les policiers et certains privilégiés se régalent.
On s'est fait épingler.
Ah oui. Arrivé au café, il me dit Marcel.
Il dit quoi, Marcel?
Il me dit Marcel. Il préfère m'appeler Marcel parce que Majid, c'est plus difficile pour lui pour des raisons d'islamophobie.
Marcel, c'est aussi une jambe bien.
C'est pas Corinne, ça va.
Ouais. Il a du mal avec Majid, c'est pour des raisons d'islamophobie bien naturelles. Je n'en peux plus. Cet Emmanuel Macron ne nous épargnera rien. Rendez-vous compte, Marcel. Cette semaine, il vient d'élargir l'accès aux archives de la guerre. La semaine dernière, il reconnaissait la responsabilité de la France dans le regrettable et accidentelle chute du sixième étage d'un obscur avocat, Alain Boumendjel. Enfin, c'est Ali Boumendjel, mais il a toujours du mal avec les prénoms arabes. Il y a deux ans, il reconnaissait que notre pays était responsable de la disparition de Maurice Audin. Vous verrez que bientôt, il va accélérer le processus de réparation des dommages subis en raison des essais atomiques dans le Sahara. C'est incroyable. Il paraît même qu'il veut nommer des rues et des places du nom de gens issus de l'immigration qui auraient contribué à la grandeur du pays.
Oui.
Comme si c'était possible. Pour Charles Aznavour, moi je veux bien, mais il ne manquerait plus qu'il y ait une rue Slimane Azem, Kateb Yassine ou Léopold Sédar Senghor. On va finir par regretter Hollande.
Abdelkader.
On va finir par regretter Hollande. Lequel Hollande, on ne peut que reprocher d'essayer de faire porter le chapeau à ce pauvre Maurice Papon, parce que quelques risques tout d'Algériens ont voulu apprendre à nager dans la Seine en octobre 61.
Ah ouais, terrible.
Vous verrez, mon cher Marcel, si ça continue, ces gens-là voudront un jour être médecins, journalistes et pourquoi pas ministres pendant qu'ils y sont. Il était tellement énervé à Gilles que j'arrivais à peine à le calmer. Cela virait presque au délire. Il commença à me dire qu'on aurait dû se méfier d'un président dont le nom ressemble tellement à ce gâteau arabe pour lequel il m'avoue tout de même un petit faible, le macroute. Je ne pus que le rassurer en lui garantissant que personne ne viendrait jamais toucher à son jardin protégé sur CNews. Et qu'en tout état de cause, Adil Farkal n'animera jamais Face à l'info, à la place de Christine Kelly.
Ah ça, je confirme.
Même si celle-ci venait à se luxer la mâchoire à force de faire des grimaces à l'écoute de certains propos.
Bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Séoussine. Et merci en tout cas. Excellent. À la semaine prochaine, avec autant de plaisir, docteur.
Avec plaisir.
Comment ça va l'ambiance avec le Covid? Rapidement, en quelques secondes, je dois rendre l'antenne.
Écoutez, je vais vous dire une chose. N'ayez pas besoin d'une place en réanimation parce qu'il n'y en a pas.
Ah, ben voilà, au moins c'est dit, c'est clair. Merci, docteur Séoussine.
À bientôt.
À bientôt, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi médecin auprès de l'hôpital Les Invalides chez les militaires. Merci messieurs, merci Nadir Kaya.
Merci à toi.
Merci Emmanuel Dupuis. Merci Abdeslam Itache. Merci Aurélie Cassi. Merci à vous tous. Et aussi les auditeurs. Merci infiniment. C'est déjà la fin de l'émission. Ça passe trop vite. On n'a même pas eu le temps de traiter Marine Le Pen et le Covid. Je vais remettre ça pour les prochaines semaines.
Parce qu'on
ça
en
vous
parle
va
tous les jours.
Exactement. Allez, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. À la semaine prochaine avec autant de plaisir pour le grand déballage. Les programmes continuent avec Bilal, Time Sport. Voilà.
Retrouvez le grand déballage tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.